franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, un pas de plus au-delà des limites de l'éthique dans le domaine de la génétique avec des chercheurs chinois qui ont en effet réussi à modifier le génome de plusieurs embryons humains. La publication de leurs résultats a déclenché un raz-de-marée de réactions. Et pour en parler, nous sommes avec vous au téléphone, Hervé Schneweis. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes neurobiologiste, président du comité d'éthique de l'INSERM et membre du comité national consultatif d'éthique. Hervé Schneweis, expliquez-nous d'abord ce qu'ont réussi à faire ces scientifiques chinois. Ils ont créé des embryons humains génétiquement modifiés. Ça veut dire quoi alors concrètement ?
Alors, dans le contexte d'une procréation médicalement assistée, quand vous avez la fusion de l'ovocyte avec le spermatozoïde, pendant une période d'environ une vingtaine d'heures, il ne se passe rien. Vous avez les deux noyaux qui restent l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle le stade 2PN, 2 pronucléides. Là, ils ont pris des zygotes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui étaient anormaux parce qu'ils avaient 3 pronucléides. Et sur ces zygotes, donc au stade d'une cellule et 3 pronucléides, ils ont essayé de faire agir des ciseaux moléculaires qu'on appelle les CRISPR-Cas9, et ils ont essayé de modifier un gène, celui de la bêta-globine, parce que c'est celui qui porte la maladie génétique la plus fréquente, qu'on appelle la bêta-thalassémie.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Ils ont découpé de l'ADN, c'est ça, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé ?
Alors, ils ont essayé de couper le gène de la globine avec comme idée de faire une thérapie génique de ce gène qui serait de corriger l'anomalie qu'on trouve dans la bêta-thalassémie.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, en l'occurrence ?
Ben, ça a donné, comme c'était tout à fait envisageable, un échec flagrant. Sur 86 zygotes qu'ils ont utilisés, il n'y en a même pas 7 dans lesquels ils ont réussi à recombiner le gène.
Oui.
Et donc, sur le plan technique, c'est un échec. Mais c'est surtout que c'est un non-sens éthique et que la même chose avait déjà été faite sur des embryons de porcs, ça avait déjà été fait sur des embryons de singes rhésus. Donc le fait que cette technique de modification des gènes puisse fonctionner, on le savait déjà. Le fait de le faire sur des zygotes humains, même si c'est des zygotes anormaux qui ne de toute façon, on ne devait pas rentrer dans un parcours de procréation médicalement assistée. Mmh. C'est juste, c'est même pas un exploit technique, c'est juste que quelqu'un qui avait un marteau dans la main a considéré le reste du monde comme une série de clous et a dû juste utiliser cette outil pour taper sur les clous.
Donc c'est techniquement raté, mais une barrière donc a été franchie effectivement dans la manipulation. Et Hervé Schneweis, on comprend bien que de toute façon, ça n'était destiné qu'au stade de l'embryon. Hein. Il ne serait pas allé plus loin, c'est ce que vous venez de nous dire. Hein.
Même pas de l'embryon, puisque le zygote, c'est une cellule. C'est vraiment le et de toute façon, c'était effectivement des zygotes anormaux, puisque un zygote 3PN s'est écarté du parcours de PMA.
Axel,
pour qu'on comprenne bien, éthiquement, quel genre de problème ça pose, ces manipulations ? Vers quoi on peut aller quand on maîtrise ces techniques ?
Mais écoutez, il y a un consensus. Double. Depuis les procès de Nuremberg, on ne fait pas d'expérimentation chez l'homme sans qu'il y ait eu d'abord un contrôle de l'efficacité et de la non-toxicité de la méthode. Là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était hautement inefficace et donc il ne serait pas envisageable de pouvoir utiliser une technique, rien que pour donner un chiffre, sur les 86 zygotes qu'ils ont utilisés, il n'y en a déjà que 71 qui ont survécu à la simple injection du matériel. Donc, ça serait tout à fait non éthique déjà de faire une chose pareille. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un consensus depuis une trentaine d'années sur le fait qu'on ne touche pas à la lignée germinale, on ne touche pas à l'information génétique qui peut être transmise de génération en génération. on fait de la thérapie génique pour essayer de soigner des cellules malades, mais on ne touche pas aux cellules germinales. Et là, en affectant le génome à ce stade, évidemment, on toucherait aux cellules germinales qui seraient produites secondairement à partir de ces cellules.
Donc là, Hervé Schneves, on est en plein bricolage au fond de l'ADN. Oui. Est-ce que de telles recherches auraient pu être menées en France ou pas? Parce que là, on est en Chine, c'est un cas particulier. On sent qu'il y a beaucoup de tabous hein, qui n'existent pas là-bas. En France, c'est totalement exclu?
C'est totalement exclu. Toute expérimentation qui utiliserait des zygotes devrait avoir au préalable une autorisation de l'Agence de la biomédecine et elle ne l'aurait pas obtenue.
Et quelle a été la réaction de la communauté scientifique internationale vis-à-vis de cette publication?
Ben écoutez, ça fait plus d'un mois que cette publication elle est annoncée. Il y a déjà eu des fuites. Elle a fait l'objet de nombreuses condamnations déjà à cause justement du fait que la lignée germinale aurait été touchée, à cause du fait que les expériences chez l'animal n'ont pas été conduites et à cause du fait qu'on sait qu'à ce stade de zygote, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens par rapport à l'activité du génome, ça n'a pas de sens par rapport à une éventuelle possibilité thérapeutique. Car aujourd'hui, ce type d'embryon et ce type de maladie sont déjà inclus dans ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. Mais ce diagnostic pré-implantatoire, il se fait 2 jours plus tard, quand l'embryon est au stade 8 cellules. Et en plus, il faut environ 24 heures pour avoir le résultat du diagnostic pré-implantatoire. Donc on serait déjà au stade 32 cellules. Et à ce stade, il n'est pas envisageable de faire de la chirurgie du gène comme elle est proposée ici.
Hervé Schneves, il y a plusieurs revues qui ont refusé, je crois, de publier les résultats chinois. Hein.
Tout à fait, et en particulier Nature à qui ça a été soumis. Et donc, dans ce contexte, c'est dans une revue tout à fait confidentielle. Et on peut noter que l'article a été soumis le 30 mars et accepté le 1er avril. Mmh. Il est fort peu probable qu'une expertise scientifique de haut niveau ait pu être menée dans un laps de temps de 24 heures.
En tout cas, les Chinois, visiblement, ont ouvert une brèche. Est-ce qu'il y a d'autres choses, à votre avis, qui vont suivre ensuite, d'autres recherche probablement et tout aussi contestée par la communauté internationale?
Écoutez, en tout cas, comme la communauté de la génétique l'avait déjà fait à Asile Omar il y a plus de 40 ans pour définir les règles de manipulation de l'ADN dans le contexte du séquençage du génome humain, il y a tout un ensemble de scientifiques dans le monde entier qui demandent une réunion internationale afin de pouvoir définir de nouvelles règles de conduite et une nouvelle façon de pouvoir organiser dans des conditions éthiques ce genre de technique au bénéfice de l'homme et non pas dans un total dénuement d'éthique comme ça a été fait là.
Bon, ben au moins c'est la vertu de cette publication, c'est que ça fait bouger un petit peu les lignes et que ça fait se rencontrer les comités d'éthique du monde entier. Merci beaucoup Hervé Schneves, vous qui êtes donc le président du comité d'éthique de l'INSERM pour cet éclairage. Merci beaucoup à vous.
Merci, bonne journée.
Et puis Axel, le podcast bien sûr de la Une de la Science hein, qu'on peut télécharger à part, comme
à
toujours.
À part, 10 minutes à réécouter avant la Une de demain. Qui sera une surprise, on ne peut pas vous en parler tout de suite.
C'est toujours le jour, l'actualité.
Toujours le jour.
Attention.
Voilà.
À demain, Axel. Merci beaucoup. Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, du Botox dans le cerveau avec une étude qui fait froncer les sourcils, ou du moins qui essaie. Des scientifiques de l'université de Queensland en Australie ont observé le passage de la neurotoxine botulique, le Botox donc, dans le cerveau et dans la moelle épinière via nos nerfs. En dehors des conséquences possibles pour les personnes utilisant du Botox à des fins esthétiques, les chercheurs espèrent mieux comprendre le développement de maladies impliquant des molécules similaires à celles du Botox, comme le virus du Nil occidental ou la rage. Les Grecs antiques à la rescousse des fêtards, un papyrus datant du 2e siècle avant Jésus-Christ et retrouvé en Égypte, propose des traitements contre la gueule de bois. En plus du port d'amulettes et d'incantations, les médecins de l'époque conseillaient de porter autour du cou un bouquet de laurier d'Alexandrie. Ce document appartient à la célèbre collection du site d'Oxyrhynchos en Égypte, dont la traduction a commencé il y a plus d'un siècle. Et puis pour finir, des chercheurs chiliens ont réussi à observer pour la première fois la lumière réfléchie par une exoplanète. Elles sont habituellement dénichées grâce à des moyens de détection indirecte, mais cette fois-ci, les scientifiques ont observé grâce aux instruments du télescope de la CIA au Chili le spectre lumineux de la planète parmi son système solaire. Ils ont réussi à l'isoler. Cette technique devrait permettre à l'avenir d'en savoir beaucoup plus sur les exoplanètes déjà connues.